19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. L'actualité archéologique s'accélère parfois. Aujourd'hui, celle de ces découvertes s'emballe sur tous les champs, notamment en France. Ce que le magazine d'archéologie de France Culture vous propose ce soir est une de ces exceptionnelles découvertes, une double découverte, celle d'un art gaulois, encore méconnu, celle d'une vaste résidence aristocratique celtique implantée au cœur de la cité Osisme, le peuple du bout du monde. Encore inconnues, voici quelques années, les résidences aristocratiques celtiques ont surtout été mises en évidence en armorique, au travers d'un site, Paul, dans la communauté de communes du Creys-Braez, non loin de Rostronin. Désormais, celle de Trémouzon, près de Saint-Brieuc, nous livre aujourd'hui des informations capitales sur l'armorique des derniers siècles avant la conquête. Pour tout savoir sur cet art celtique, notamment découvert au fond d'un puits, je me suis rendu à Rennes, à la direction des affaires culturelles sur le parvis universitaire de Beaulieu, pour y rencontrer Stéphane Bourne, archéologue responsable de la fouille de l'INRAP, et Yves Ménez, proto-historien, conservateur régional de l'archéologie de Bretagne.
Cet emplacement était connu d'une vaste nécropole de l'âge du bronze qui avait donné lieu en fait à un zonage archéologique au niveau du plan local d'urbanisme de la commune dans le cadre d'une installation d'une zone d'activité. Des sondages ont été réalisés en 2001 qui ont démontré la validité de cette nécropole, effectivement son attribution à l'âge du bronze, mais également la présence d'un vaste établissement gaulois en fait juste à côté d'un de ces tertres. Lors de l'installation de l'entreprise, d'une première entreprise en fait, le tertre de l'âge du bronze a fait l'objet d'une fouille en 2001 par Stéphane Blanchet. Et on avait réservé le terrain où étaient les vestiges gaulois en disant que si ce terrain devait être aménagé un jour, il devait faire l'objet d'une fouille archéologique, et c'est arrivé 18 ans plus tard.
Parce que cette zone des Côtes d'Armor serait très riche.
Alors on est dans des terres leucites du nord de la Bretagne, donc les terres légumières, donc effectivement il s'agit de terres riches qui malheureusement au niveau du développement durable en fait sont colonisées par des zones d'activité mais qui dépendent aussi de ces entreprises puisque produire des légumes c'est bien, les exporter vers Rungis c'est bien également.
Stéphane Bourne, ce que vous avez trouvé c'est une vaste résidence gauloise ?
Oui, en effet, on observe à Trémouzon plusieurs caractéristiques qui sont propres aux habitats aristocratiques, comme par exemple une division nette de l'espace entre une partie résidentielle et des parties dédiées à d'autres activités agricoles ou artisanales. Mais on observe également une taille très imposante des fossés qui délimitaient ces espaces, ainsi que l'existence d'une entrée monumentale. En plus de ça, donc une partie du mobilier qu'on a découvert, comme les nombreux fragments d'amphores à vin ou le seau de banquet ainsi que les quatre sculptures, indiquent également que ce site possédait un statut élevé. Au vu de tous ces éléments rares qui ont été mis au jour, on peut d'ores et déjà affirmer que le site gaulois de Trémouzon se situe plutôt en haut de la pyramide des établissements aristocratiques connus à ce jour en Gaule.
Yves Ménez, ça se présente comment cette résidence ? D'abord, un énorme portail ?
Alors cette résidence, c'est un vaste habitat enclos, puisque les habitats sont enclos très tôt en fait en Bretagne, dès le VIe siècle avant notre ère. En fait, ils sont dotés de puissants fossés avec généralement des talus à l'intérieur. La plupart des fermes étaient encloses. Quand il s'agit d'une simple ferme, c'est un petit fossé, un petit talus planté de haies éventuellement. Une maison et des dépendances qui s'organisent autour d'une cour. Une résidence aristocratique, ça se présente de la même façon, simplement tout est beaucoup plus monumental. Donc les clôtures sont plus monumentales. Sur le site de Trémouzon, en fait, le fossé fait 3 mètres de profondeur, ce qui signe en fait un talus important. Au lieu d'une simple entrée par interruption du fossé ou un simple porche, en fait, là on a une construction assez imposante, donc avec un porche monumental doté d'une couverture, éventuellement d'une tour porche. Et au lieu d'avoir une simple petite maison en fond de cour, en fait, on a des grandes maisons, une grande maison qui fait au moins 100 mètres carrés au sol.
Les maisons, comment se présentaient-elles ?
Alors les maisons, donc nous en avons trouvé plusieurs au centre de la cour résidentielle. Il s'agissait de bâtiments qui étaient en ossature en bois et qui possédaient des murs en terre et très certainement des toitures en chaume. Les deux principaux bâtiments qui ont été identifiés sont de plan rectangulaire et chacun d'eux couvre au sol une surface d'environ 100 mètres carrés. La taille importante des trous de poteaux qui sont situés dans l'espace interne de ces bâtiments permet d'émettre l'hypothèse de l'existence d'un étage pour ces édifices.
Vous pensez vraiment à un étage, Yves Ménez ?
C'est toujours en débat, mais effectivement, en fait, à partir du moment où on a un corpus en fait de sites fouillés importants d'habitat gaulois, donc on a entre une petite centaine de sites gaulois intégralement fouillés en Bretagne, ça permet de voir en fait les différences sur ces sites-là. Sur beaucoup d'habitats ruraux simples, en fait, les trous de poteaux sont peu importants, enfin peu profonds, creusés peu profondément, et avec des sections de poteaux qui sont de l'ordre de 20 cm de diamètre. Le plus souvent des poteaux non équarris, parfois des poteaux équarris de 20 cm de côté. Par contre, sur d'autres sites, notamment les sites élitaires, en fait, on a des trous de poteaux qui peuvent atteindre jusqu'à 1m20, 1m80 de profondeur, avec donc des dimensions très imposantes, et avec des poteaux à l'intérieur qui sont le plus souvent équarris, qui font entre 60 cm et 40 cm de section. Donc on est sur des sections beaucoup plus imposantes. Les Gaulois n'étaient pas plus idiots que nous. S'ils mettaient des fondations puissantes avec des poteaux extrêmement puissants, c'était probablement pour des charges lourdes. Quand il s'agit de structures pour le stockage des grains, ça se justifie par le poids en fait des céréales qui sont stockées dans ces édifices. Quand il s'agit de simples maisons, c'est probablement lié à des charges lourdes générées par des étages. Oui.
Alors on peut supposer un étage. Une maison aristocratique, qu'elle soit gauloise ou médiévale, c'est avant tout une grande pièce de réception.
Oui, vraisemblablement. Alors par contre, on a très peu l'organisation interne de ces bâtiments, puisqu'on fouille généralement sous les sols, donc il nous reste les fondations. Il faudrait trouver des maisons, en fait, avec les sols conservés pour voir les dispositions intérieures. Par rapport à ce qu'on connaît un petit peu ailleurs en Gaule, il faut effectivement imaginer une pièce de réception au rez-de-chaussée, et puis des pièces de service autour, et d'autres pièces à l'étage.
Alors quelle est la chronologie de votre site ?
Il semble que l'occupation débute au cours du 4e siècle avant notre ère. On ne sait pas exactement encore quand est-ce que ce site a été abandonné, mais nous avons trouvé, en tout cas dans le comblement sommital du puits, de la céramique qui date très certainement de la deuxième moitié du 1er siècle avant notre ère, donc en effet contemporaine du début de l'occupation romaine.
Je me laisse 4 siècles pour une résidence, c'est beaucoup ou peu ?
Alors c'est beaucoup en Gaule de manière générale. C'est presque normal, en fait, dans notre région, puisque je sais pas si le breton était attaché à sa terre, mais on a donc des sites qui sont souvent occupés durant plusieurs siècles, souvent effectivement pour le type de site qu'a étudié Stéphane Bourne, en fait, entre la fin du 4e siècle et le tout début de notre ère. Certains sites ont même des occupations plus longues, comme Paul, Linguignel, Pouvers-sur-Anse, en fait, qui commencent au 6e siècle avant notre ère et qui s'achèvent, en fait, dans les décennies qui ont suivi la conquête de la Gaule par les armées romaines. Donc on peut avoir 6 siècles d'occupation sur un même habitat. C'est étonnant par rapport à ce qu'on connaît sur l'habitat rural en Gaule, mais c'est assez caractéristique de cette région.
Et de quoi s'agit-il ? D'une sorte de grand centre résidentiel, familial ?
Non, il s'agit en fait d'une résidence en fait familiale à la tête d'un domaine, donc à l'image pour les époques plus tardives en fait d'un habitat antique, une villa romaine par exemple, avec des signes de pouvoir importants et donc probablement d'autres fonctions que le simple contrôle d'un domaine. La plupart de ces cités élitaires sont situées notamment à côté de voies importantes et donc avaient aussi probablement pour rôle l'entretien des voies, voire l'octroi de péage, etc.
Alors, résidence élitaire, ça veut dire beaucoup pour les archéologues, peut-être pas beaucoup pour le commun des mortels. On doit y voir quoi ? Utilisons peut-être un mot médiéval. Est-ce que l'on pourrait être sur une maison de maître, un manoir ?
Oui, c'est un peu cette image-là. En fait, on a une grande diversité d'habitats ruraux depuis, en fait, la petite ferme avec usage, l'exploitation d'un terroir de quelques hectares uniquement, jusqu'à au sommet de l'échelle, en fait, les résidences de la haute aristocratie qui, pour certains, comme le site de Pôle, sont fortifiées et peuvent s'apparenter à des châteaux. Là, on est sur un site non fortifié, donc effectivement, l'idée de maison de maître, de manoir, de maison forte, en fait, peut venir pour des périodes beaucoup plus tardives du Moyen-Âge, même si on est dans une structure sociale différente.
Stéphane Bourne, on ne le sait absolument pas pour les périodes anciennes, mais on le sait pour les périodes bien plus récentes, notamment, on va dire, pour le 1er siècle avant notre ère. La Gaule est divisée en cité, nous sommes au cœur de quelle cité ?
Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est que le site de Trémuson, en plus du fait que de nombreux objets très rares ont été découverts, se situe à la limite de deux anciens territoires, celui des Osismes et celui des Coriosolites. Donc le territoire des Osismes, pour situer géographiquement, c'était le plus vaste d'Armorique. Il correspond approximativement à l'actuel département des Finistères et à la partie occidentale des Côtes d'Armor. Quant au territoire des Coriosolites, il s'étendait, lui, sur le nord de l'île-et-Vilaine et sur la partie orientale des Côtes d'Armor. Donc l'état de la recherche actuelle laisse penser que c'est le Gouette, qui est un petit fleuve côtier qui se jette dans la mer au niveau de Saint-Brieuc, qui marquait la limite des territoires de ces deux peuples. Et ce fleuve coule à seulement 3 km à l'est de l'emplacement de la fouille. Donc si c'est bien cette vallée qui marquait la limite entre ces deux peuples, l'habitat gaulois de Trémuson se situerait alors chez les Osismes.
Les Osismes, c'est bien sûr le peuple du bout du monde, les Finistériens. Mais que sait-on sur eux exactement ?
On ne sait pas énormément de choses, puisqu'en fait, ils sont mentionnés dans les textes à de rares occasions. L'avantage, c'est qu'en fait, le texte le plus ancien du IVe siècle avant notre ère qui les mentionne, c'est le voyage de Pythéas, en fait, donc qui est parti de Marseille pour ensuite emprunter la Manche et la mer du Nord, et donc qui mentionne en fait l'existence de ce peuple à la pointe bretonne dès le IVe siècle avant notre ère. Et après, en fait, il fait partie des coalitions armoricaines, en fait, des cités armoricaines mentionnées par César pour la guerre des Gaules. Donc effectivement, c'est les habitants du bout du monde qui collent bien. On est vraiment à l'extrémité de la Gaule celtique, à la frontière entre l'Atlantique et la Manche.
Stéphane Bourne, il y aurait du vin sur votre fouille ?
Oui, en effet, nous avons découvert un grand nombre de fragments d'amphores vinaires, dont certaines proviennent d'Italie et d'autres très certainement d'Espagne. Cela est un signe de richesse des habitants qui habitaient sur ce site.
Et c'est une chose normale, c'est une chose qu'on trouve assez souvent ?
Ces amphores sont beaucoup plus fréquentes sur la côte sud de la Bretagne, et dès qu'on passe en fait le Ratzin et la Ouessant, en fait, elles sont beaucoup plus rares sur le nord de la Bretagne et notamment dans cette partie de la cité. Un vaste site comme Trégueux, étudié sur une dizaine d'hectares, en fait, a livré quelques centaines de tessons d'amphores tout au plus, alors qu'on est là aussi sur une résidence élitaire. On retrouve en fait cette faible abondance d'amphores surtout de la partie normande jusqu'à l'embouchure de la Seine. Donc le fait que le site de Trémuson ait de manière significative pas mal de tessons d'amphores renforce également ce côté de résidence élitaire. Un habitat classique en Sud-Bretagne peut livrer quelques centaines de tessons d'amphores. Dans cette zone-là, dans la baie de Saint-Brieuc, c'est rare.
En tout cas, donc, on sait que nos aristocrates de Trémuson boivent du vin, mais ils tirent leur richesse de quoi exactement ?
Prioritairement de leur domaine, certainement. De leur domaine peut-être au pluriel, donc on est sur des riches terres agricoles, donc une des premières sources de revenus, c'est effectivement l'exploitation de la terre. D'autres sources ne sont pas à exclure, comme Stéphane Bourne va probablement l'évoquer, l'hypothèse de mine est possible.
Oui, vous avez pensé à des mines. Alors on sait qu'il y a des mines d'or en Bretagne, il y aurait même peut-être de l'argent ?
Oui, en effet, on connaît à proximité du site de Trémuson des mines de plomb argentifère qui ont été exploitées donc, principalement à l'époque moderne, à partir du XVIIIe siècle, et même de façon industrielle au début du XXe siècle. Mais on sait également que le plomb et l'argent étaient exploités dès l'Antiquité. Donc on peut imaginer, mais ceci reste à ce stade qu'une simple hypothèse, que l'argent pouvait être exploité par la famille aristocratique gauloise de Trémuson et que cette activité ait également participé à son enrichissement.
Vous avez fouillé l'habitat, bien sûr. Vous avez fouillé donc environ 5000 mètres carrés, d'après ce que j'ai compris. Et puis, il y avait un puits. Ibanez, la fouille des puits, c'est une chose qui n'est pas nouvelle, mais qui peut, malgré tout, nous apporter énormément d'éléments.
Un puits, c'est un peu un compteur d'eau. Ce que je dis, un compteur d'eau, c'est pas totalement anodin sur l'habitat. Si on peut, par exemple, avec un cuvelage du fond, on peut dater la construction d'un puits très précisément par la dendrochronologie. Et de même, en fait, avec les bois qu'a trouvé Stéphane Bourne, en fait, dans la fouille de ce puits, on pourra dater très précisément son abandon. Et c'est un élément fondamental pour comprendre la fin de cet habitat, au-delà du caractère exceptionnel des objets qui ont été découverts.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Des puits, vous en aviez fouillé dans une autre résidence majeure, donc résidence aristocratique bretonne, le site de Paule, et là, vous aviez trouvé un mobilier tout à fait incroyable.
Oui, alors sur le site de Paule, le puits est un des signes de l'habitat élitaire, puisqu'en fait, il a percé la roche qu'à 18,30 m de profondeur avec des techniques de mine importantes. Et au fond de ce puits à eau, en fait, on a trouvé une machine hydraulique exceptionnelle qui signe là aussi, d'une part, le caractère très particulier de cet habitat, qui a eu moyen de se doter de la première machine hydraulique actuellement connue en Gaule, hein, antérieurement aux machines romaines mieux connues. Et cette machine qui a été inventée en fait pour l'exor des mines d'or juste à côté du Cygne signe aussi la relation entre cet habitat et les mines. Ici, la fouille de ce puits, elle n'a pas été demandée au hasard. Elle a été demandée du fait d'une première découverte réalisée par Stéphane Bourne et parce qu'on savait que ce puits avait été comblé en fait à la fin de l'habitat, exactement à la même période en fait qu'une fosse où a été effectuée une découverte majeure.
Qu'y avait-il dans cette fosse, Stéphane Bourne ?
Dans cette fosse a été trouvée la première sculpture qu'on a trouvée sur le site. Donc cette statue reposait face contre terre dans une petite fosse rectangulaire dont les dimensions permettent de dire qu'elle a été creusée exprès pour la recevoir. Cette fosse se situe à proximité du puits dont on vient de parler et juste à côté du bâtiment qui faisait face au porche d'entrée monumental qui correspondait sans doute à l'édifice principal du site. Et en plus de cette sculpture, nous avons découvert 6 gros clous en fer qui probablement correspondaient à des clous d'une boîte en bois dans laquelle cette statue était contenue. Donc pour parler un peu plus précisément de cette sculpture, donc elle a été réalisée dans de la fibrolite qui est une roche métamorphique locale. Elle mesure 40 cm de haut et pèse à peu près 11 kg. Elle représente la tête d'un homme barbu à la chevelure assez soignée, qui porte un torque à tampon autour du cou. Sur cette sculpture, on remarque que les traits du visage, que sa chevelure et que ses oreilles ont été finement ciselés, alors que, en revanche, sa base est restée à l'état d'ébauche et se termine en pointe. Ces éléments laissent penser qu'elle devait être à l'origine fichée dans le sol ou incluse dans un support.
Et puis, il y en a eu d'autres trouvées dans le puits, donc c'est bien ça, Yves Mélez ?
Au tamisage, donc déjà la tête d'une autre sculpture est sortie, et ensuite au fond du puits, 2 autres bustes ont été trouvés.
Elle date de quelle époque ? Toujours ce 1er siècle ?
Le comblement du puits peut être daté actuellement de la deuxième moitié du 1er siècle avant notre ère, sauf si Stéphane me contredit, mais pour ce que j'ai vu, on se situe effectivement en post-conquête dans la deuxième moitié de ce siècle. Et on est vraiment sur les comblements primaires, c'est-à-dire que les 2 sculptures ont été trouvées juste au-dessus de la couche d'utilisation du puits et avant son comblement définitif. Donc ça marque vraiment le scellement du point d'eau.
Alors, la première trouvée dans la fosse représente bien sûr donc un aristocrate ou un Gaulois, les cheveux jetés en arrière, la moustache, la barbe, il est assez beau. Tout ça sont des traits normaux pour vous, représentant donc quelque aristocrate ?
Elle est très figurative par rapport aux sculptures du même type que l'on trouve. En buste aussi figuratif, il faudrait mentionner celui d'Alésia en Bourgogne. Mais la plupart, en fait, des sculptures gauloises de ce type-là, donc qu'on appelle buste sur socle, sont beaucoup plus du style art premier. Donc en fait, il figure un personnage sous la forme de traits géométriques avec ses symboles essentiels, mais sans vouloir le personnaliser, sans lui donner en fait un détail. Le premier buste découvert est quand même très très humain, très proche du figuratif, et on pourrait comparer sa sculpture ou sa chevelure aussi bien à des portraits romains que des portraits grecs contemporains.
Les 3 autres sont beaucoup plus curieuses quand même.
Je dirais beaucoup plus normal par rapport à ces groupes de sculptures qu'on trouve aussi bien en Bretagne que dans le centre de la France, que même dans le sud de la France. On est sur quelque chose où le bloc extrait se voit encore, la base est restée brute, le torse est simplement dégrossi au ciseau pour évoquer un torse humain, et en fait les traits du visage sont limités à l'essentiel, le nez, les yeux, les oreilles, qui étaient les éléments importants, petite figuration de la chevelure, assez sommaire, mais on est vraiment sur quelque chose qui est très symbolique et proche des arts premiers.
Yves Mélez, ce qui est étonnant, c'est que vous en aviez déjà trouvé dans la fameuse résidence aristocratique de Paul.
Oui, et effectivement, à Paul, donc une première a été trouvée en 1988, 2 autres en 1996 et la dernière en 1997. Donc c'est une petite famille qui a été réunie. Là, la petite famille de Trémuson, donc les 4 bustes ont été trouvés dans le cadre d'une même opération et c'est tout à fait satisfaisant. Et on peut mentionner un troisième endroit en Bretagne, Mauron, où en fait un agriculteur dans son champ a trouvé 2 sculptures du même type. Donc ça montre simplement que ces œuvres en fait participent d'ensemble, en sculpture, qui étaient probablement exposées en un même lieu et qui ont pas forcément été sculptées au même moment, mais en fait ont été sculptées au fur et à mesure pour s'intégrer en fait à un petit ensemble qui était vraisemblablement exposé dans l'habitat. Et comme l'a évoqué Stéphane Bourne, donc 3 de Paul ont également brûlé, donc celles de Trémuson ont brûlé, et en fait le socle est généralement exempt de traces d'incendie, donc ça veut dire qu'effectivement elles étaient plantées dans ce matériau au moment où elles ont brûlé.
On sait que les Gaulois ne représentent pas les dieux. On se souvient bien sûr de Brennus arrivant devant la sculpture d'Apollon à Delphes. Dans ces cas-là, de quoi peut-il s'agir ?
Alors ces sculptures doivent être reliées à un ensemble donc d'œuvres qui ont été répertoriées, une trentaine d'œuvres semblables qui sont des bustes de même facture, de taille assez modeste en fait, qui entre 25 cm et 70 cm de hauteur, socle compris. Donc ce sont des œuvres en fait qui sont assez intimistes, qui sont faites pour être exposées dans un bâtiment, exposées frontalement, vues de face ou vues de trois quarts et donc au tiers enfouies. Toutes ont été trouvées en fait sur des habitats. Et aucune dans un sanctuaire gaulois. Donc effectivement, le fait de les lier à ces habitats paraît naturel. Et quand on a pu étudier ces habitats, c'est vrai de Trémuson, c'est vrai de Paul, ce sont des habitats de l'élite gauloise, donc de l'aristocratie gauloise. Donc l'hypothèse de lignée d'ancêtres de ces familles, en fait, a été posée.
On y voit aussi des symboles forts, par exemple le torque.
Oui, de mémoire, en fait, sur une trentaine de ces sculptures, 13 portent un torque. Rien d'étonnant à cela, on sait que ça signalait, comme l'a évoqué Stéphane, en fait, des personnages importants de la cité. On est dans des résidences aristocratiques, sur des personnages importants de la cité, et qui sont très fiers que la cité leur ait octroyé un torque, à l'image d'un amiral qui se ferait représenter avec une décoration octroyée par le roi, ou une légion d'honneur. Un peu plus tard. Mais d'autres symboles existent également. Les symboles moins fréquents que le torque existent aussi, des poignards par exemple, parfois dotés de leur fourreau. Ça existe pour trois de ces bustes. Et un symbole un peu plus étonnant ou plus rare, la lyre en fait, qui est brandie par le premier buste de Paul, figuré sur le premier buste de Paul, qui signe là le statut du personnage qui est un barde.
Les bardes sont des personnages très importants dans la société celtique.
Oui, ce sont des personnages importants qui relèvent également de l'aristocratie, au même titre que les druides ou les vates pour les devins. Donc ça fait partie simplement de l'aristocratie plutôt religieuse de ces sociétés. Et surtout, ce sont les garants de la mémoire familiale, la mémoire généalogique et également de la réputation, entre guillemets, dans la société, à la manière des griots africains ou des aèdes grecs. Donc c'est une société essentiellement orale et le barde a entre autres fonctions la fonction de chanter des hymnes ou des satires, notamment dans le cadre des banquets aristocratiques ou de réunions importantes, en fait, mentionnant aussi bien la généalogie et l'histoire en fait d'un personnage ou d'un puissant que de signaler ses actes valeureux, voire de le railler si effectivement il a eu des actes moins valeureux dans le cadre d'un combat.
Peut-on voir dans ces sculptures de simples dieux lards à l'image donc du monde antique?
Non, il ne s'agit pas de dieux protégeant la maison, je ne pense pas. Ce qui sort aussi bien de la fouille de Trémuson que de la fouille de Paul, en fait, c'est l'idée plutôt de dynastie. Alors, ce que devra démontrer l'étude des sculptures de Trémuson, c'est est-ce qu'elles ont été sculptées au même moment, avec les mêmes outils? Ce qu'ont montré celles de Paul, c'est qu'elles n'ont pas été sculptées au même moment. Parfois, le même matériau est choisi, mais l'outil qui les sculpte, en fait, n'est pas le même. Donc, il est possible que, à l'image de l'aristocratie romaine, en fait, quand un personnage important mourait, certains étaient dignes d'être statufiés. Et donc, en fait, une statue était sculptée pour conserver sa mémoire. Dans le cadre de l'aristocratie romaine, donc, le buste sculpté participait aux funérailles et ensuite était intégré dans l'atrium de la maison, dans une armoire aux ancêtres. Et quand un personnage important était reçu, l'armoire était ouverte et le personnage important qu'on recevait savait qu'on était issu d'une très ancienne famille. Et le barde ou un autre personnage de la famille, en fait, pouvait signifier que tel personnage statufié, en fait, avait combattu tel ou tel peuple à telle époque, c'était particulièrement distingué, ou avait dirigé la flotte, ou avait été particulièrement honoré à tel moment par la cité.
Toujours est-il que tant sur le site aristocratique de Paul que sur le vôtre, donc celui de Trémuson, toutes ces sculptures ont été jetées dans une fosse, jetées dans des puits.
Oui, en effet, le contexte de découverte de ces objets, tous réunis au même endroit au fond du puits ou en effet au fond de cette fosse pour le premier exemplaire, évoque clairement un dépôt ou un rejet volontaire. Après, la raison de ce dépôt reste à déterminer. Il pourrait s'agir ou d'une simple cache ou d'un dépôt rituel ou de toute autre chose. Pour l'instant, peu de comparaisons existent, mais on peut citer la découverte, il y a quelques années, d'une statue de la même époque dans une structure profonde à Amboise. Elle était associée à des ossements d'animaux encore aux connexions qui évoquent possiblement un dépôt rituel.
Vous pensez au rituel, Ismaël?
Je suis très peu rituel, de manière générale. En fait, si vous voulez, ces sculptures correspondent à l'état d'une société. C'est-à-dire, en fait, dans les deux siècles avant notre ère, pour aller rapidement, on a une société qui, avant, ne représentait pas, en fait, ses défunts ni ses dieux dans la sculpture. Le tabou, finalement, de la figuration humaine est brisé pour deux choses. Pour le monnayage, par exemple, qui est un des symboles de l'aristocratie. Pour la sculpture, qui est un autre des symboles de l'aristocratie. C'est-à-dire qu'on brise, entre guillemets, un tabou de la figuration humaine, qui existait apparemment dans nos régions, puisqu'on n'a jamais de représentation humaine auparavant, au profit des puissants. Ces sculptures marchent avec une société, fonctionnent avec une société, et au moment où, suite à la conquête de la Gaule par les armées de César, en fait, la société devient romaine, les modes changent, l'usage change, la façon d'habiter change, et donc elles ont perdu leur fonction. Après, l'incendie marque-t-il l'abandon du site? Et a-t-on laissé les sculptures parce qu'elles n'avaient plus d'intérêt, en fait, dans le cadre de la nouvelle société qui se composait, avec une famille qui est allée construire une villa romaine un peu plus loin, près de Saint-Brieuc, qui s'est intégrée, en fait, à la construction de la cité romaine et qui a perdu ses anciens usages? Ou bien est-ce que ça s'est fait de manière violente avec, effectivement, un incendie de la maison? En fait, le rejet des sculptures d'ancêtres en tant que symbole de cette famille, symbole famille vaincue, rejetée, il sera très difficile de le dire. Par contre, ce qui est certain, c'est que, de toute façon, ces sculptures n'avaient aucun intérêt à être conservé dans le cadre de la Gaule qui va se constituer à partir du règne d'Auguste.
Tout au fond du puits, Stéphane Bourne, il y avait donc des sculptures, mais il n'y avait pas que ça.
Oui, en effet, sans doute une des plus belles pièces que nous avons trouvées dans ce puits est ce seau de banquet en bois d'if, dont l'état de conservation est tout à fait exceptionnel. Il est donc cerclé et présente des motifs décoratifs en volute, en bronze également. Et tout ça présente une qualité artistique remarquable. Ces éléments décoratifs, dont certains évoquent possiblement des poissons, sont fixés avec précision au bois par des petits rivets métalliques. Mais nous n'avons pas évoqué également la découverte de beaucoup d'autres objets dans ce puits. Nous pouvons, par exemple, indiquer la découverte d'une serpe en fer qui possédait encore une partie de son manche en bois, plusieurs douelles qui correspondent au reste d'un seau de puisage, mais aussi plusieurs morceaux de bois tournés qui correspondent probablement à des fragments d'un meuble en bois qui devait être très finement décoré et qui sont également une pièce exceptionnelle car nous n'en connaissons pas à ce jour.
Yves Benez, je reviendrai uniquement sur le seau. Laissons la serpe d'or où elle est. Le seau, c'est un seau de banquet pour les banquets aristocratiques. Banquet que l'on connaît chez les Celtes, les Grecs et les Romains.
Oui, il fait partie de ces signes d'une résidence de l'élite gauloise, bien évidemment. Ce sont des petits seaux de table, en fait, pour les liquides. Après, peut-être que les analyses physico-chimiques permettront de déterminer le liquide qui est à l'intérieur, même si sur de l'organique, des douelles en if, c'est pas facile, c'est pas aisé. Ça pouvait être pour la consommation du vin, effectivement, au moment des banquets, ou la bière, avec un récipient qui se passait, en fait, de convive en convive. Donc, ces seaux de table ont été retrouvés, par exemple, à une dizaine de kilomètres dans l'agglomération gauloise de Trégueux. Donc, en fait, cette vaisselle de table en if a été retrouvée ailleurs. Par contre, à Trégueux, en fait, ces seaux dont toutes les parties métalliques ont été retirées étaient simplement des seaux utilitaires avec des petits cerclages en laiton ou en bronze, plus vraisemblablement en bronze. Celui de Trégueux se distingue par son ornementation qui est absolument splendide, avec des motifs de poissons, comme le disait Stéphane, probablement de tricelles également pour les grands motifs qui ornent les parois du seau. C'est une vaisselle de table superbement décorée qui signe le statut des propriétaires. Et donc qui va très bien avec les amphorvinaires trouvés sur le site et l'ampleur de la maison.
Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Philippe Mercher et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, le magazine d'archéologie de France Culture évoquera un autre lieu, d'autres temps, d'autres découvertes. Thank you.